Vous écoutez On lit pour vous.
Une matière à enseigner. Un texte de Daphné B. paru le 18 mai 2025 dans La Presse. Depuis des semaines, l'interdiction des téléphones cellulaires sur l'ensemble du terrain des écoles primaires et secondaires du Québec fait jaser, mais porte aussi ombrage à de nombreux enjeux soulevé par les transformations médiatiques profondes qui ébranlent notre société depuis au moins les 20 dernières années. En fait, l'annonce de cette nouvelle interdiction ressemble à un pseudo-événement. Elle stimule et oriente les discours au risque de nous faire oublier un système éducatif en crise. Il faut savoir que les téléphones cellulaires sont déjà interdits en classe depuis janvier 2024. La nouvelle mesure gouvernementale fait suite au rapport intérimaire déposé par la commission transpartisane chargée de se pencher sur l'impact des écrans et des réseaux sociaux chez les jeunes. Si l'interdiction donne l'impression d'un État proactif, réellement préoccupé par le sort de sa jeunesse, elle risque pourtant d'alourdir la tâche enseignante et de compliquer le travail du personnel de soutien scolaire. Et les adultes dans tout ça? Dans le mémoire qu'elle a déposé à la commission, la Fédération des médecins spécialistes du Québec, FMSQ, encourage l'interdiction du téléphone cellulaire à l'école, mais insiste aussi sur l'importance de sensibiliser les étudiants québécois aux bonnes pratiques numériques. Pour ce faire, la Fédération propose d'offrir aux élèves des ateliers de citoyenneté numérique. L'Association québécoise des neuropsychologues va même plus loin. Si on veut évoluer sainement dans une société de plus en plus connectée, il faut promouvoir de bonnes habitudes chez les jeunes, mais aussi chez les adultes. D'ailleurs, d'après le mémoire déposé par la docteure Audrey-Anne Deneau et Maë Gariepi, chercheuses au laboratoire RISE du département de psychologie de l'Université de Montréal, il est important de considérer l'utilisation numérique des parents parce que leur utilisation façonne celle de leurs enfants. L'exercice critique proposé par la Commission devrait donc s'étendre à l'ensemble de la population. En effet, nos réalités numériques affectent tous les Québécois, pas juste les jeunes. D'ailleurs, pas besoin d'être en présence d'un écran pour en ressentir les effets. Le réel découle d'une interpénétration constante entre physique et numérique. On ne peut parler de culture québécoise sans parler de culture web, ni même comprendre la politique actuelle en faisant fi de l'économie de l'influence ou de la radicalisation des jeunes hommes en ligne, par exemple. Une littératie numérique inégale. Au Québec, la compréhension des enjeux que pose le numérique est inégale et varie notamment en fonction des âges. Cette compréhension est pourtant nécessaire à l'exercice avisé de nos droits et de nos devoirs civiques. Comment aborder la spéculation financière et le phénomène inquiétant des meme coins si on ignore ce qu'est un meme? Est-ce possible de méditer sur les transformations langagières sans prendre en compte l'algospeak, cette novlangue inventée par les internautes pour contourner la censure algorithmique? Et que dire de l'intelligence artificielle qui s'infiltre rapidement dans nos vies, alors même que beaucoup peinent encore à comprendre ce qu'est un algorithme? Enseignons aux jeunes comment certaines visions du monde s'enchâssent aux plateformes que l'on utilise. Montrons-leur que de nombreuses technologies sont optimisées de manière à permettre un plus grand accès au corps des femmes, comme Google Images, créé dans la foulée d'une intensification des recherches autour d'une robe Versace au décolleté plongeant portée par Jennifer Lopez. Instruisons-les aussi sur Gamergate, cette campagne de harcèlement en ligne envers des femmes dans le milieu du jeu vidéo qui préfigure la montée en puissance de l'alt-right. Pascal Thériault, une professeure invitée à l'UQAT Montréal, qui enseigne déjà cet événement web, m'a expliqué au téléphone qu'il est pertinent d'en parler, même 10 ans plus tard, car l'histoire tend à se répéter. D'ailleurs, plusieurs des techniques de désinformation déployées pendant Gamergate sont extrêmement populaires aujourd'hui, comme l'astroturfing, soit la contrefaçon d'opinion. À l'heure actuelle, notre littératie médiatique inégale nuit à la prise de décisions politiques, mais aussi à la production de savoir. On constate même des décalages au sein des établissements d'enseignement, comme les universités. Lorsque j'ai fait ma maîtrise en littérature, par exemple, la professeure, à la tête de la chaire de recherche sur les récits de voyages hypermédiatiques, ignorait ce qu'était un hashtag, mot-clic. La culture web dans la formation générale. Alors que le Cégep de Trois-Rivières offre maintenant une formation de 150 heures pour devenir influenceur, aucun programme entièrement consacré au numérique n'a encore été intégré à la formation générale des Québécois. Or, puisque le diplôme collégial vise à former des citoyens éclairés, capables de vivre en société de façon responsable, selon le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, il m'apparaît souhaitable de mettre sur pied un cours de culture web afin que les Québécois saisissent davantage les tenants sociaux, politiques, historiques, juridiques et philosophiques des plateformes qu'ils utilisent quotidiennement. Au-delà d'une bonne hygiène de vie numérique, nous devons aussi développer un rapport critique et informé face à la technologie qui nous entoure et qui structure nos vies. Et d'ailleurs, le temps presse. Car au bousculement provoqué par l'avènement des médias sociaux, s'ajoute désormais un nouveau média, l'intelligence artificielle générative. Il ne faudrait pas laisser aux entreprises technologiques le soin de nous éduquer sur leurs produits. Qu'elles se fassent alarmistes ou rassurantes, ces dernières cherchent avant tout à s'enrichir et à satisfaire leurs investisseurs. Une véritable littératie médiatique nous pousserait d'ailleurs à développer une pensée critique face à notre consommation numérique, mais aussi face aux produits et aux discours déployés par ces entreprises. Mais pour penser par soi-même, il faut d'abord comprendre. C'était une matière à enseigner, un texte de Daphné B, paru le 18 mai 2025 dans La Presse.
Soixante ans et après, cinq personnalités se confient. Un texte de Marie-Ève Martel paru le 15 mai 2025 dans Virage. Avoir 60 ans, qu'est-ce que ça change? Cinq personnalités qui ont récemment franchi ce cap symbolique ou qui l'atteindront au cours de l'année se confient franchement, voire étonnamment, sur leur âge. Tour à tour, ces néo-sexagénaires abordent leur perception changeante du succès, de la liberté, de l'être, de l'égalité et de l'authenticité. 1. Mario Jean, humoriste et comédien. Quand j'étais jeune, à 60 ans, je m'imaginais... Je n'arrivais pas à m'imaginer à 60 ans. On dirait que quand tu es jeune, 60 ans, c'est presque la fin. C'est loin, c'est vieux, c'est la retraite. C'est la maladie. C'est drôle, je n'imaginais pas avoir autant d'énergie à 60 ans. Est-ce qu'on change à 60 ans? Je ne trouve pas. Je n'ai pas un désir de changer autant que quand j'ai vécu ma quarantaine et ma cinquantaine, par exemple. Je n'ai pas de remise en question. On continue. Quelle est ta perception du succès aujourd'hui? Il y a deux façons de voir le succès. Il y a le succès extrême où tu atteins un sommet très rapidement, où tu es partout et tu dépasses des frontières. Oui, j'ai été populaire. J'ai fait bien des trucs, mais je ne voulais pas atteindre ce succès-là et ensuite tomber dans l'oubli. Ma définition du succès, elle s'applique à n'importe qui. C'est faire ce qu'on aime le plus longtemps possible et continuer d'aimer notre travail et d'être pertinent. 2. Charles Gaudreau, comédien et animateur. Quand j'étais jeune, à 60 ans, je m'imaginais... mort. Pour moi, 60 ans, c'était vieux. J'ai une photo de moi bébé, en 1964, avec ma grand-mère qui était née en 1900. Elle avait l'air tellement plus vieille. Et j'ai perdu mon père quand il avait 68 ans. Il est tombé malade à 62 ans. Pour ces raisons, c'est comme si j'avais intégré que 60 ans, c'était la fin de la vie. Aujourd'hui, je ne vois plus ça de la même manière. Est-ce qu'on change à 60 ans? J'ai toujours eu le cœur à gauche, et ça reste toujours ainsi. Je réalise aussi que ma capacité à résoudre des problèmes est supérieure. Quelle est ta perception de la liberté aujourd'hui? Ce n'est surtout pas monétaire. Pour moi, la liberté... c'est le fait d'exercer un métier que j'aime. C'est aussi de ne pas être considéré uniquement en fonction de mon âge. La vraie liberté, c'est de ne pas être catégorisé dans l'œil de l'autre, mais d'exister comme son égal. 3. Jacques Létourneau, syndicaliste et personnalité médiatique. Quand j'étais jeune, à 60 ans, je m'imaginais... Je ne m'imaginais pas, je ne pensais pas à ça. Encore aujourd'hui, je ne réalise pas que j'ai 60 ans. Est-ce qu'on change à 60 ans? Je ne perçois pas de changements fondamentaux. Je demeure un éternel optimiste qui a foi en la société civile et en chaque individu. Quelle est ta perception de l'égalité aujourd'hui? Je trouve qu'on a régressé quand on se compare à il y a une dizaine d'années. On n'est pas dans une belle période par rapport au masculinisme, à l'égalité entre les hommes et les femmes, l'égalité des chances ou l'égalité sociale. Mais j'ose espérer qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Ma formation d'historien me fait croire que oui, mais il m'arrive de me demander si les 30 à 50 dernières années n'auront été qu'une parenthèse dans l'histoire de l'humanité. 4. Marie-Michèle Grenier, avocate en protection de la jeunesse et présidente d'Aide aux trans du Québec. Quand j'étais jeune, à 60 ans, je m'imaginais... Je n'en avais aucune idée. Je pense que quand j'étais enfant, j'avais l'impression que je n'arriverais jamais jusque-là. Quand j'étais plus jeune et que je voyais des gens de 60 ans, c'était des vieux. Est-ce qu'on change à 60 ans? Personnellement, c'est plutôt que j'aurais voulu changer. Vivre ma transition. Pendant mon adolescence, c'était considéré comme une maladie mentale. Heureusement, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Quand on la vit plus tard, on se retrouve avec un sentiment d'imposteur au début. Mais maintenant, je suis en forme et de bonne humeur, pour toutes sortes de raisons. Je vais bien sans bon sens. Quelle est ta perception d'être aujourd'hui? Je suis né pour aider les gens. Ça m'a sauvé la vie d'être capable de faire en sorte que les personnes que je rencontre soient bien et heureuses. Je transmets ma bonne humeur. Je ressens une immense gratitude d'avoir la liberté d'être qui je veux, et je suis reconnaissante pour toutes les personnes qui, avant moi, se sont battues. Maintenant, je m'implique pour faire en sorte que ces droits qui ont été acquis, on ne les perde pas. 5. Kim Richardson, chanteuse et comédienne. Quand j'étais jeune, à 60 ans, je m'imaginais... Vieillir ne m'a jamais effrayé. Pour ma mère et ma grand-mère, vieillir n'a pas été difficile. La génétique dans ma famille est généreuse. Elles n'ont pas de rides. Je vois aussi que leur joie de vivre est toujours bien présente malgré les petits bobos, comme les maux de dos et de genoux. Je peux dire que 60 ans, ce n'est pas la fin du monde. Au contraire, c'est un bonus parce qu'on a la sagesse en plus. Est-ce qu'on change à 60 ans? On pose un regard différent sur la vie. On ne s'attarde pas à des détails. On lâche les petits problèmes. L'important, c'est la santé, la famille et le bien-être en tout. On n'a pas de temps à perdre sur des choses futiles et des commentaires désobligeants. Ce n'est pas important. Quelle est ta perception de l'authenticité aujourd'hui? Pour moi, ça signifie de paver mon propre chemin, de faire les choses à ma manière et de ne pas chercher à imiter les autres. C'est aussi pouvoir me regarder dans le miroir et me demander « Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis heureuse? Est-ce que je suis bien dans ma peau? » Être authentique, c'est être confortable avec nos choix et avec ce qu'on fait. C'était 60 ans et après, 5 personnalités se confient. Un texte de Marie-Ève Martel paru le 15 mai 2025 dans Virage.
Normaliser le deuil périnatal. Un texte commandité paru le 26 mai 2025 dans la presse. Chaque année, des milliers de familles vivent un deuil dit invisible, celui provoqué par une fausse couche. Cet événement, encore trop souvent tabou, touche pourtant près d'une grossesse sur 5. La psychologue Roxane Larocque partage une partie de son savoir pour outiller les parents face à cette épreuve difficile à nommer et à expliquer. Le deuil invisible. La définition officielle du deuil périnatal englobe toutes les formes de décès reliées à une grossesse, du début de celle-ci à la première année de vie de l'enfant. La fausse couche, quant à elle, désigne les pertes fœtales qui surviennent avant la 20e semaine de la grossesse. Mais même pour ceux et celles qui connaissent les statistiques, la fausse couche surprend et laisse derrière elle un grand sentiment de vide. Il faut faire le deuil de ce qu'on ne connaîtra pas, souligne Dr. Roxane Larocque. C'est un deuil souvent qualifié d'invisible puisqu'il n'y a pas d'acte de naissance ni d'acte de décès, ni rien pour reconnaître que le bébé et passer dans la vie des parents. L'importance de la communauté. Malgré leur fréquence, les fausses couches demeurent un sujet sensible dans la société. Pour Mme Larocque, une partie du tabou réside dans la relation sociétale avec la mort en général. Dans le cas d'un deuil périnatal, c'est encore plus délicat, puisqu'il s'agit du décès d'un enfant. Ce n'est pas dans l'ordre des choses. Un enfant, c'est censé vivre, explique-t-elle. Le deuil, qui se vit de plein de manières différentes selon le contexte de la perte de grossesse, peut donc causer un certain isolement en raison de sa nature. Le tabou demeure parce qu'on a une trop grande sensibilité par rapport à ça. Par peur d'être malhabile ou de les ramener dans leur souffrance rapidement, on ne le mentionne plus aux parents concernés, poursuit-elle. Pour surmonter une épreuve pareille, Roxane Larocque souligne l'importance d'être bien entourée. Je crois beaucoup à l'appui de la communauté, puisque la santé mentale est écosystémique, confie-t-elle. Être avec des personnes qui vous permettent de vivre la douleur librement, sans jugement et sans phrases maladroites, aide à briser l'isolement. Ce réseau peut être formé de la famille ou se tisser grâce à des groupes de soutien. Le contact avec des gens qui ont passé à travers cette expérience peut apaiser. Le deuil est facilement validé quand la perte vient d'arriver, mais après, la vie reprend. Et parfois, on reste figé dans le temps, dit-elle. À titre d'exemple, Roxane Larocque mentionne l'organisme Les Perséides, qui s'est donné pour mission d'accompagner ceux et celles qui vivent avec cette réalité. Le pouvoir des rituels. Malgré toutes les avancées scientifiques du monde, il n'existe pas de solution magique pour surmonter un deuil. C'est le fameux temps qui guérit les choses, affirme la psychologue. On doit passer à travers toutes les émotions, et ce n'est pas linéaire. Les rituels sont toutefois un outil précieux pour aider les parents à cheminer s'ils en ressentent le besoin. Ils permettent de faire exister le bébé dans le réel et de rendre visible le lien qui s'est créé avec lui. Sinon, tout reste suspendu dans l'invisible, indique la psychologue. On peut nommer l'enfant ou le surnommer, planter un arbre à sa mémoire, lui écrire une lettre ou même lui faire une boîte remplie d'objets symboliques. Accompagner l'autre. Il est tout à fait normal de se sentir impuissant face à la douleur d'un proche confronté à cette épreuve. Pour Dr. Larocque, la clé est d'offrir de l'espace. Le but ne doit pas être de trouver une phrase magique, ça n'existe pas, mais de prendre une posture d'accompagnement, ce qui ne passe pas nécessairement par les mots, dit-elle. Dans le cas des couples qui vivent ce deuil en même temps, mais souvent différemment, le défi est important. Le deuil est une période de stress et d'adaptation, précise la docteure. Il y a des étapes. Et on en découvre les effets au fur et à mesure. Jongler entre ses émotions et celles de l'autre est une gymnastique difficile. Il faut revenir à la base de la bonne vieille communication, c'est essentiel, poursuit-elle. C'était « Normaliser le deuil périnatal », un texte commandité paru le 26 mai 2025 dans La Presse.
En juin, je lis Autochtone, Jeunesse. 8 suggestions de lecture de la rédaction, parues le 1er juin 2025 dans le carnet thématique Je lis Autochtone. 1. Nous sommes métis, par Tasha Hilderman et Risa Hugo, édition scolastique. Découvrez la culture et les traditions métisses à travers les yeux d'enfants. Certains ont vécu en communauté, d'autres non. Toutefois, il n'est jamais trop tard pour découvrir son identité. Un album de toute beauté avec un message inspirant. 2. Nutchimit, le cahier d'activité, par Mélissa Morlun-Dupuis et Élise Gravel, édition scolastique. Après avoir lu Nutchimit, un bain de forêt, il est temps de mettre nos nouveaux apprentissages en action. Les enfants sont ainsi invités à cultiver leur imagination en créant des recettes, des animaux ou des personnages, à colorier, à dessiner et à écrire. Un outil pédagogique fort intéressant, rempli d'apprentissages ludiques et amusants. 3. On y va, par Julie Flett, édition La Pastèque. Un petit garçon voit souvent des jeunes passer à toute vitesse sur leur planche à roulettes. Une nouvelle passion est née, il veut tout de suite apprendre ce nouveau loisir exaltant. Il comprendra cependant que cela demande beaucoup de travail et d'efforts. Un merveilleux album sur la persévérance et la confiance en soi. 4. Pour ma fille chérie, ma panique, par Nadia Samurtok et Paulin Turgut, édition Les Malins. Anna, Anna, est-ce que tu m'aimes? La douce question d'une petite fille à sa mère, voilà le début d'une magnifique ode à son enfant. Au passage, les jeunes découvriront les paysages nordiques et le mode de vie inuit. 5. Une enquête des rats musclés, tome 3, Le traité envolé, par Michael Hutchinson, édition Boréale. Dans ce nouveau volet, la joyeuse bande de cousins enquête sur la disparition d'un traité essentiel pour la nation Cree de la communauté de la Covent lors d'un grand rassemblement. Les apprentis détectives permettront d'en apprendre davantage sur les Premières Nations, leurs relations avec le territoire, la colonisation et les cultures autochtones. 6. Powwow, je compte en Cree, par Penny M. Thomas, édition scolastique. Préparez-vous pour le powwow, ces grandes fêtes traditionnelles autochtones, tout en apprenant les chiffres de 1 à 10 en français et en Cree des plaines. Les illustrations, tout en douceur et en délicatesse, charmeront petites, petits et grandes, grands pour le plaisir de toutes et tous. 7. Trouver la maison, par Océane Kitura Bohémier Toutou, édition Anénorak. Louisa a perdu sa maman. Un jour, en s'approchant d'un Inukshuk, elle est transportée dans un monde mythique. Elle fera alors la rencontre de personnages tirés de légendes inuites qui l'aideront à retrouver sa maison. Un roman jeunesse puissant sur le chemin à parcourir pour vivre son deuil. 8. Un ours n'attend pas l'autre, par Tania Tagak et Si Putuguk, édition La Pastèque. Un album pour apprendre à compter de 1 à 10 en français et en Inuktitut. Du même coup, les enfants approfondiront leurs connaissances sur les ours polaires et joueront avec les mots et les consonances. C'était « En juin, je lis autochtone, jeunesse ». 8 suggestions de lecture de la rédaction, parues le 1er juin 2025 dans le carnet thématique « Je lis autochtone ».